quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Dortmund, Paris SG, ce soir à 21h sur Canal+ et Canal+ Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
On y est, Chris ?
Ah ouais, non, mais c'est idiot de mettre Jérôme Coppel en tête de peloton, c'est pas bon pour moi, ça.
Bah oui.
Non, mais c'est bon, hein. On a fait que 250 mètres, là, Christophe.
Ouais, c'est bon. Bonjour à tous, voilà, je suis entouré de traîtres qui balancent.
Une bonne petite marche pour la journée de repos, Christophe.
Numéro 1, c'est Pierre-Yves Leroux, évidemment, qui après un an de vacances, effectivement, a retrouvé son poids de jeune homme. Hein. Tu me disais tout à l'heure, tu as retrouvé ton poids de tes 17 ans.
Exactement.
Ça fait du bien de rien foutre pendant un an, finalement. Hein. Du coup, t'es affûté.
Bah, t'as souffert un petit peu dans cette randonnée,
ouais.
Christophe.
Oh.
Le coach était dur. Hein,
j'ai pas terminé très loin non plus du peloton.
Pas très loin. Juste devant la voiture balai.
J'étais avec Rémi, qui a quand même 20 ans de moins que moi, et qui est arrivé en même temps que moi. Effectivement, derrière Jérôme Coppel, c'est quand même pas évident de... Mais d'ailleurs, Pierre-Yves montait plus vite que toi.
Bien sûr, il montait plus vite que moi.
Ben oui.
Mais attends, c'est une gazelle.
Un an de vacances, ça fait du bien. Bonjour messieurs. Bonjour
salut,
messieurs.
Christophe, salut à tous.
On salue nos auditeurs, évidemment, qui sont avec nous dans l'Intégral Tour de France pour cette 10e étape qui s'était lancée tout à l'heure de Morzine en direction de Megève. On va rester toute la journée dans le département de Haute-Savoie. Voilà, qui te fait plaisir, Jérôme, j'imagine.
Je suis le plus heureux du monde aujourd'hui.
Voilà, c'est magnifique. Les routes sont belles. Il fait très chaud. Il fait très beau, quasiment depuis le départ de ce Tour de France. Et c'est donc la deuxième étape dans les Alpes. Ce n'est pas la plus dure. Il faudra attendre demain et après-demain pour les étapes sans doute décisives de ce Tour de France. Mais il y a quand même de quoi faire aujourd'hui. Cyril Guimard est là, lui aussi. Il a marché hier. Il n'a pas voulu venir avec nous quand même. Il a fait une marche en solitaire.
Non, je ne voulais pas aller avec vous. Je préfère aller en solitaire. Vous savez, comme les très vieux sangliers.
Un vieux sanglier solitaire, mais qui lui aussi a mal aux pattes aujourd'hui quand même. Arnaud Souk, lui, il n'a pas marché, il a joué à la belote et il a plongé dans le lac. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Il y a les sportifs et les autres. Bonjour Arnaud.
Eh oui, je suis allé courir le matin quand même, hein, pendant que tu pionçais. J'ai fait 8 bornes le matin de course.
Je suis réveillé à 6h30 voilà. Tous les matins, mon ami.
À côté de vous à 6h30 du matin.
Demain matin, je viens te réveiller quand je me réveille, oui. D'accord ? T'es d'accord ?
Pas de soucis, pas de problème.
Auditeurs,
ça va, Christophe, sinon?
Ouais, ça va, super. Les auditeurs se rendent compte, hein, qu'en deuxième semaine, ça commence à être plus tendu dans les équipes, il y a des règlements de compte.
C'est tendu, évidemment. Tout va bien, Arnaud, il fait beau, il fait chaud sur la moto.
Tout va très très bien, il fait beau, il fait pas encore très chaud parce qu'on est encore un petit peu en altitude, à 25 degrés, on est descendu de Morzine, on n'est pas très loin d'ailleurs de là où tu as pris ta petite, là où tu as explosé hier en randonnée. Christophe, on est vraiment tout à côté et on va plonger dans quelques instants vers le lac Léman. On va avoir, à mon avis, une vue pas piquée des hannetons sur le lac Léman. Ça va être magnifique. Décidément, on aura tourné tout autour de ce lac pendant quelques jours. On va le quitter presque à regret. Oui, puisque tu fais savoir que je me suis baigné effectivement dans le lac Léman hier. Je tiens à dire quand même que vous avez été un peu feignant de pas venir. L'eau était excellente et vraiment de très très claire et de très grande qualité.
Et qui est-ce qui a préparé le barbecue?
Il fera gaffe aux puces de canard, hein. C'est le grand problème du lac Léman en ce moment. C'est vrai, en plus.
Beaucoup de puces de canard dans le lac Léman.
Vous voyez
se gratter, effectivement.
C'est attaqué
par la puce de canard. Il faut faire attention à ça. J'espère qu'il ne va pas nous transmettre son truc, hein, parce qu'on sait qu'en ce moment, les virus et autres microbes.
Colle-toi bien à Marco, en tout cas, n'hésite pas.
Oui, il va être content, Marco. Ah oui. Il va se gratter pendant 15 jours.
Une grosse puce.
Alors, on va faire un point sur la course, parce que là, on est complètement déconcentré. C'est dur
pourtant
de se remettre, évidemment, après cette journée de repos. Les coureurs, eux se sont remis très vite puisque la course est déclenchée depuis un bon moment maintenant. On va faire donc un premier top course avec toi, Pierre-Yves.
127 km encore à parcourir dans cette étape courte, hein, 148 km au total entre Morzine, les Portes du Soleil et Megève. Une étape avec tout de suite une première difficulté, la côte de Chevenot au bout de 24 km qui va permettre sans doute à l'échappée de se dessiner. Et deux hommes ont déjà pris la poudre d'escampette, Benoît Cosnefroy et Alberto Bettiol qui sont en tête. Alors ils n'ont pas grand chose, hein, ils ont 7 secondes d'avance sur des coureurs qui essayent de se rapprocher comme Quinn Simmons, Dylan Van Baarle ou encore Stephen Kung ou Fuglsang qui sont par là. Warren Barguil est pas mal classé aussi à l'avant de ce peloton, mais rien n'est fait encore au départ de la côte de Chevenot, dans quelques instants classé en 4e catégorie.
RMC Intégral Tour.
Oui, on nous annonce seulement 2,2 km de montée à 2,9%, mais la côte est bien plus longue quand même, mon cher Jérôme. Hein.
Oui, c'est plus long. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait le GPM dès les premiers pourcentages de cette route, donc c'est un petit peu plus long. Il y a bien 6 km de montée, je pense, en tout.
Le GPM, on précise ?
Grand Prix de la Montagne.
Ah oui,
très bien. Grand Prix de la Montagne, c'est
pour
vrai.
Pour le maillot, évidemment, à pois rouge, de meilleurs grimpeurs de ce Tour de France. Maillot à pois rouge qui est désormais porté aujourd'hui par Simone Geschke, après son échappée l'autre jour, dans l'étape qui arrivait à Châtel. Mais rien n'est fait encore dans ce...
Tu l'appelles Simone ?
Simon.
Mais tu peux l'appeler Simon en voiture.
Simon.
En voiture, Christophe.
On l'appelait Simon.
Et Simon. Exactement. Mais tu sais, c'est bien Simon. Ce...
Simon. Ouais.
Mais il faut dire Simon d'ailleurs. Hein. Il n'est pas anglais, c'est hein, Simon
Geschke. Simon Geschke. Ok. On peut le dire en allemand. Je ne sais pas comment on dit en allemand, Simon. On va demander Simon. Ça. Simon. Cyril, aujourd'hui, je suis complètement déconcentré. Je n'arrive pas à me concentrer avec vous.
Il faut dire qu'on ne t'aide pas. Ouais,
mais non,
pas.
Mais comment voulez-vous vous concentrer?
Alors, en même temps, tu appelles les coureurs Simon.
Et Cyril.
Sidi.
Bon, vas-y, prends la main. Prends la main, vas-y.
Ah, bah ça y est, on y est au pied de cette difficulté, la côte de Chevenot. Pente moyenne 2,9%. C'est là que ça va se dessiner, Cyril ?
Ben pour l'instant, il y a certains coureurs pour lesquels ça se dessine, qui sont déjà lâchés dans cette ascension. Et quand on sait qu'il n'y a que 148 km, les délais vont être un petit peu plus courts. Donc déjà, vous avez Oliver Nassen, Laffey, Caleb Ewan, qui sont déjà en perdition.
Oui, déjà une 20 derrière les hommes de tête.
Et ça sort encore en tête de peloton. Évidemment, tout le monde a envie d'être dans la bonne échappée parce que c'est une étape pour les baroudeurs aujourd'hui, Jérôme. C'est pas pour la grande bagarre du classement général. Il y aura sans doute en fin d'étape peut-être quelques escarmouches. Mais alors aujourd'hui, c'est l'une des chances pour ceux qui grimpent convenablement d'aller chercher peut-être une victoire d'étape.
Oui, c'est le scénario auquel on s'attend. Une grande échappée qui va se disputer la victoire ici à Megève. Du coup, tous les coureurs veulent essayer de prendre l'échappée. Ça bagarre très fort. Si ça sort pas dans cette montée-là, faudra attendre certainement la deuxième montée, le col de Jean Baz. Mais pour ça, il va arriver au bout de 45 km. Donc pour les coureurs lâchés, comme le disait Cyril, ça va être un petit peu plus compliqué parce que les délais vont être courts. Ça continue à rouler très vite. Attention aujourd'hui.
Avec une attaque d'Anthony Pérez, le Toulousain qui essaye à son tour de sortir 1,5 km encore d'escalade ici dans la côte de Chevenot.
Ça bastonne dans cette côte de Chevenot. Première difficulté de la journée, classée 4e catégorie. Ensuite, eh bien, le peloton redescendra vers le lac Léman avant de traverser le département en direction de Cluses et puis Saint-Gervais-les-Bains et Megève où sera jugée l'arrivée tout à l'heure. Megève, nous sommes aujourd'hui non pas là où c'était achevé une étape en 2016, étape contre la montre, où tu avais bien figuré cette année-là, Jérôme.
Ouais, 10e ou 11e, quelque chose comme ça.
Non, d'un contre-la-montre du Tour de France.
Ouais, bon, le premier, j'avais fait 4e. C'était mieux quand même le premier chrono de cette année-là. Mais oui, on terminait vraiment dans le centre-ville de Megève, alors que là, on est vraiment tout en haut de la côte 2000 à l'altiport de Megève, donc au point le plus haut de cette ville de Megève. Alors, la montée, on aura le temps d'en reparler, mais la dernière montée est très longue, mais pas très raide. Hein. C'est un peu le thème de toute cette étape. C'est des cols vraiment pas très longs. Ici, on aurait pu faire très dur, mais on a un peu tourné autour des cols difficiles. Donc, on a des montées à 3, 4, 5% de moyenne. Voilà, pas vraiment très dur, mais on voit que les lendemains de journée de repos, il y a toujours des surprises. On voit Aurélien Paré-Pinte, qui est quand même le 3e français, qui est 13e au classement général, qui est vraiment en queue de peloton depuis tout à l'heure. Il n'a pas l'air de passer un joli début d'étape.
Et pourtant, il est chez lui, puisqu'il est
plus que régional.
Oui. Tu le disais, on évite certaines des côtes les plus difficiles et des cols, notamment la côte de Domancy. Rappelez-vous, la côte de Domancy, c'est là que Bernard Hinault avait été chercher son titre de champion du monde il y a de cela quelques années. Cyril, ça ne nous rajeunit pas. Elle est redoutable, cette côte de Nomancy, mais peut-être un peu trop étroite pour que tout le Tour de France puisse passer là-dessus. Mais ça aurait été un beau petit juge de paix avant l'arrivée à Megève tout à l'heure. Hein.
Oui, on est passé sur des routes plus étroites, ne serait-ce que dans l'enfer du Nord, où on avait même pavé les rues. Donc ça aurait pu y passer, mais c'est une côte que Bernard Hinault a beaucoup aimé et qu'il continue à aimer. En fait, finalement, pour lui, elle a été très facile.
Bernard Hinault qui est d'ailleurs présent aujourd'hui sur les routes du Tour de France. Nouvelle tentative d'échapper avec un certain Thibaut Pinot.
Oui, surtout pour aller chercher les points dans 200 mètres. Oui. Attention aussi à
Pierre Latour
qui ressort à l'instant. Thibaut Pinot qui n'accélère pas pour aller chercher un petit point. Il en garde peut-être sous le coude. On aperçoit Simon Geschke qui est là également pour aller chercher ses points. Et bien ce point, il sera pour Pierre Latour qui, au classement du meilleur grimpeur, est 7e avec 7 points. Ça lui en fera 8 désormais. On rappelle que Simon Geschke est à 19 points. Thibaut Pinot, lui, est à 14.
Et le problème de Pierre Latour, c'est qu'il monte plutôt pas mal, mais qu'il descend comme un fer à repasser par un fer à cheval. C'est un fer à repasser. Pour descendre un fer à cheval, ça peut servir. Pierre Latour, on l'a vu l'autre jour, vraiment en difficulté dans les descentes. Mais voilà, il a l'air de s'intéresser en tous les cas à ce maillot à poids de meilleur grimpeur. Et c'est plutôt une bonne chose parce que rien n'est encore fait pour ce classement. Même si, on le sait, Tadej Pogačar, demain et après-demain, risque d'aller prendre de très très gros points. On va faire d'ailleurs un petit point sur la situation au sein de la formation UAE parce que c'est un peu compliqué pour les coéquipiers de Pogačar. On se souvient que Langen avait été obligé de quitter le Tour de France il y a de cela 3 jours, me semble-t-il, testé positif au Covid. Hier, l'équipe a été testée et surprise, eh bien personne du Tour de France n'a été contrôlé,
positif.
N'a été testé positif. Oui. Or ce matin, on apprend quand même que 2 coureurs sont non partants parce qu'ils ont été testés positifs, dont un des équipiers de Pogačar.
Oui. Georges Bennett pour l'équipe UAE et Luc Durbridge pour l'équipe Bike Exchange. On précise qu'il y a 2 autres forfaits, mais pour d'autres raisons. Ben O'Connor, qu'on a vu en grande souffrance sur toute la première semaine, tout comme Alexis Villermoz, le jurassien, qui souffre d'une infection cutanée nécessitant une intervention chirurgicale et qui a une forte fièvre également. Mais pour les 2 autres cas, ce sont donc des cas positifs. Donc ils sont positifs le mardi matin, mais ils ne le sont pas lors des tests qui précèdent, ce qui est assez quand même surprenant la veille. Mm-hmm. Quand même assez bon. Voilà, on se pose des questions. Il y a des choses bizarres, mais voilà. En tout cas, ça fait surtout un équipier de moins et 2 même avec Vegard Steeklengen pour Tadej Pogačar. Donc une équipe un petit peu diminuée. Il n'a plus que 5 hommes avec lui.
D'autant qu'il y a des rumeurs très insistantes ici au sein du peloton qui font état peut-être d'un autre coureur, d'un lieutenant très chevronné de Pogačar qui lui aussi aurait testé positif, mais dont la charge virale serait inférieure et donc ce qui lui aurait permis de continuer ce Tour de France, hein, Jérôme. Ça discute beaucoup sur les réseaux sociaux depuis quelques heures.
Voilà, c'est ça. Rafał Majka, pour pas le citer, aurait été testé positif aussi au Covid, mais comme tu l'as dit, avec une charge virale descendante, donc plus contagieux. Maintenant, les questions qu'on se pose, c'est si la charge virale est descendante, ça veut dire qu'il y a quelques jours, elle était forcément montante. Mais il n'y avait pas de test UCI. Alors, est-ce que UAE n'ont pas fait de test en interne? Et finalement, ils n'étaient pas du tout au courant qu'il était infecté par le Covid. Est-ce que c'est ça? On va attendre des confirmations encore pour être sûr et des explications. Mais voilà, ça paraît, comme l'a dit Pierre-Yves, il y a des choses bizarres avec ces tests Covid qui arrivent négatifs, qui sont positifs le lendemain. C'est un peu le flou pour tout le monde.
Et puis Arnaud, tu peux peut-être nous raconter aussi ce qui s'est passé ce matin au village et qui fait que c'était un peu dur de toute façon de se rapprocher du bus UAE. C'était full clos du côté de Morzine ce matin.
Oui, alors on y était avec Julien Richard tout à l'heure. On a réussi finalement en escaladant à aller jusqu'au bus UAE. Voilà, on a réussi. Moi, je suis allé très très directement poser la question.
Mais un bus qui est arrivé très tard. Il faut expliquer que c'était compliqué aussi l'accès.
Oui, je vais y venir. Pierre-Yves.
Je suis impatient.
D'abord, j'explique que je suis allé voir le patron de l'équipe, Mathieu Fernandez, pour lui demander si il pouvait confirmer les 2 cas positifs testés positifs au Covid, en l'occurrence Bennett et Rafał Majka, donc il m'a gentiment envoyé dans les roses, mais c'est vrai que donc on a quand même rapidement compris malgré tout que George Bennett était positif, puisque tout simplement on n'a pas vu son vélo. Quant à Rafał Majka, on aura d'autres confirmations, mais effectivement ce cas positif de Rafał Majka serait, en tout cas moi voilà, j'ai une source qui me dit que ce cas positif serait réel. Toujours est-il que donc effectivement ça a été un petit peu folklorique ce matin pour accéder au village de Morzine, parce qu'il y a plusieurs bus, une dizaine de bus en tout, qui ont réussi à aller se garer à l'endroit habituel, en fait au paddock tout simplement, qui est l'endroit dédié au bus. Et puis est arrivé le bus Education First, qui dans un rond-point n'a tout simplement pas réussi à prendre un virage en épingle, et donc qui a bloqué tout le reste des bus, ce qui fait que en fait on a eu la majorité des bus ce matin qui se sont garés très très au-dessus en fait de là où ils étaient censés se garer. Alors ça pourrait paraître anecdotique, mais finalement ils se sont garés dans un espace public en fait qui n'était pas clos, et on avait dit en tout cas du côté de l'organisation qu'on ne voulait plus de public justement, ni d'invités ni quoi que ce soit dans le paddock auprès des équipes. Et pour le coup ce matin c'est complètement raté, puisque le public a pu tranquillement passer au milieu de beaucoup de bus. Il y avait le bus Ineos, il y avait le bus d'UAI, il y avait le bus de Groupama FDJ, bref le bus de Cofidis aussi, un paquet de bus effectivement qui sont allés se garer à Dash, comme on dit, loin de là où ils étaient censés se garer. Et ils ont failli rater la signature pour certains d'ailleurs.
Ouais, on aurait pu avoir quelques abandons. Non, ils auraient sans doute retardé le départ de l'étape.
Des amendes, il y aurait
oui, peut-être.
Ils les auraient pas mis. J'espère quand même qu'ils auraient suffisamment de dignité pour pas mettre des amendes sur un problème de stationnement.
Ah, oui, mais pour l'UCI, ça coûte très cher de faire des tests qui sont tous négatifs d'ailleurs.
Mais ça
leur coûte quand même du blé, donc il faut prendre des sous quand même.
Donc, alors je sais pas si tu l'as précisé, Arnaud, il y a quelques instants, mais parce que là je reçois le communiqué à l'instant. Désormais, à partir d'aujourd'hui. Très certainement, les paddocks sont fermés. Il n'y a plus d'accès du tout. Seuls les représentants de l'Union Cycliste Internationale, donc les jurys, les commissaires et l'antidopage, le staff des équipes et le personnel de l'organisation encadrant les équipes auront désormais accès au paddock.
C'est-à-dire que la presse n'aura plus le droit d'accéder au coureur. Bah, comme ça, on ne pourra pas leur poser des questions gênantes. Hein.
Bah, c'est bien.
Bah, ça sera pratique.
C'est bien. Déjà qu'on pouvait travailler en toute liberté, ça va accentuer encore ça.
C'est magnifique.
Ouais, et y a une autre chose qui est quand même assez surprenante, c'est
que. Ça va être triste.
Comme ça, on balancera toutes les rumeurs sans les vérifier. Et puis on verra, ils se débrouilleront avec.
Hein. Oui, non, mais c'est... On a eu... Mais déjà que c'était difficile de travailler, il faut quand même le dire, hein, c'est difficile sur le Tour de France de faire son métier. Depuis deux ans, c'était un tout petit peu mieux là depuis le début du tour, mais écoutez, là ça va redevenir compliqué. Donc en fait, on va aller en zone mixte le matin et on va attendre gentiment que les coureurs veuillent bien s'arrêter et que les attachés de presse veuillent bien faire arrêter les coureurs pour poser les questions à des gens qu'on nous emmènera en fait, dont on n'aura pas vraiment la maîtrise.
Une autre chose qui est surprenante, c'est qu'il y a eu un communiqué de l'UCI pour signaler un test positif, c'est celui de Guillaume Martin. Mais pour toutes les autres équipes, les équipes étrangères, là comme UAE, ce sont les équipes qui communiquent elles-mêmes. Donc c'est assez bizarre, ça semble pas très carré tout ça.
Et Guillaume Martin, on l'écoutera tout à l'heure, qui doit bien avoir le sentiment d'être le cocu de l'histoire quand même. Hein. Lui qui a été dégagé du Tour de France pour un test positif, alors qu'a priori, d'autres dans de grandes équipes ne bénéficient de passe-droit que n'a pas obtenu Guillaume Martin. Allez, 118 km de l'arrivée, on fait un tout petit point avec toi, Pierre-Yves, le top course, et on s'arrête récupérer quelques petites musettes.
119 km à parcourir dans cette étape qui emmène les coureurs à Megève, à l'altiport de Megève. Des tentatives pour sortir. On a aperçu Benjamin Thomas il y a quelques instants, lui qui avait eu des problèmes de chaussures au départ. Et le départ a d'ailleurs été retardé pour cette raison. Eh bien, ses chaussures ont l'air d'être parfaites. Il a essayé de prendre un petit peu d'avance. C'est Pierre Latour qui a pris le point qu'il y avait à glaner au sommet de la côte de Chevenot, mais pour l'instant, eh bien, le peloton est groupé. On essaye de sortir toujours. À l'instant, c'est à nouveau Mohoric qui essaye de prendre du champ sur ses adversaires.
14h23 sur RMC. On revient dans un instant pour la suite de l'intégrale Tour de France à 118 km de l'arrivée, donc dans la descente en direction du lac Léman. On va voir ce qui va se passer évidemment jusqu'à ce soir 18h. Qui va aller l'emporter? Y aura-t-il une bataille pour le classement général ou Pogacar va-t-il laisser des bons de sortie aujourd'hui? Réponse dans les minutes qui viennent. À tout de suite.
RMC Intégrale Tour.
Christophe. Christophe Cessieux.
La 10e étape du Tour de France aujourd'hui. Nous sommes en Haute-Savoie entre Morzine et Megève, 148 km de distance, de kilomètres donc à parcourir pour le peloton du Tour de France qui est reparti avec donc deux hommes en moins, vous le disiez tout à l'heure, Durbridge et Bennett, George Bennett, coéquipier de Tadej Pogacar, testé positif aujourd'hui et non hier. Hier tout le monde évidemment est sorti indemne de ce test qui faisait peur à beaucoup de monde. Quelles circonstances on a fait ces tests? Il y a des rumeurs là aussi qui circulent sur des subterfuges utilisés par certains afin de tromper les tests. Je ne sais pas si vous avez lu ça, monsieur Guimard, qui fait des gestes avec les...
Il n'y a
les...
jamais eu de subterfuge dans le vélo.
Non, ça serait ce genre de choses. Non, alors qu'est-ce qu'on nous a dit? Que certains utiliseraient de la vaseline, se seraient mis de la vaseline dans les narines de manière à tromper les tests. Est-ce que ça vous semble crédible, cette histoire?
Pour l'instant, moi, ça me fait plutôt rigoler parce que je vois pas très bien comment, quand on retire le coton, si on voit pas qu'il y a de la vaseline.
Oui, bon, oui, on peut le voir, mais...
Oui.
Ouais, mais est-ce qu'on ferme pas les yeux aussi sur certains trucs? Je sais pas.
Des fois, il n'y a pas besoin de fermer les yeux, il suffit tout simplement d'être aveugle.
Avec ça. Débrouillez-vous avec ça. Tiens, on va écouter justement Guillaume Martin. Guillaume Martin, qui, vous le savez, donc, a été contraint à abandonner le Tour de France parce que lui a été testé positif. Il était, on le rappelle, au moment de son exfiltration du Tour de France, 13e au classement général. Et on peut le comprendre, il avait quand même un peu les boules, surtout lorsqu'il a appris que tous les tests hier étaient négatifs. On écoute Guillaume Martin.
J'ai pas d'éléments tangibles pour avancer ça. C'est juste des suspicions, des rumeurs, et donc je vais pas m'engager sur ce terrain-là. J'espère vraiment, en tout cas, que c'est pas le cas. Statistiquement, ça semble un peu étonnant qu'aujourd'hui, par exemple, il y ait aucun test positif. Mais voilà, j'ai certainement pas envie non plus de me lancer dans des théories complotistes nourries par mon ressentiment naturel. Moi, c'est évidemment ce que je voulais, de pouvoir repartir hier, faire la journée, voir ce que le test hier soir disait, et puis ensuite, dans tous les cas, j'avais quasiment 48 heures, même 72 heures pour ne plus être contaminant. Mais après, voilà, ça aurait pas été très, très réglo vis-à-vis de l'ensemble du peloton, et encore moins vis-à-vis de mes coéquipiers.
Alors, on rappelle que Guillaume, lui, n'a pas été testé par l'UCI, mais par la formation Cofidis, et que celle-ci a ensuite communiqué les résultats, et ce qui fait qu'il n'a pas pu prendre le départ avant-hier de l'étape. Et donc, Guillaume Martin est rentré chez lui, là-bas en Normandie. Il va se ressourcer, il participera peut-être à la Vuelta, Tour d'Espagne, dont on a appris aujourd'hui que Julien Alaphilippe ferait partie de cette course dans quelques semaines, à la fin du mois d'août.
Et Guillaume Martin qui a envoyé un petit tweet ce matin avec... Comment ça, vous savez, c'est un petit jeu How It Started, et comment ça commence et puis comment ça se finit. Donc on le voit en photo au départ du tour, et la deuxième photo, il est au milieu de ses ânes, il a retrouvé la Normandie et il a l'air en pleine forme. Voilà, sans doute un peu frustré évidemment, il a surtout pas très envie d'allumer la télé, il l'a dit. C'est compliqué.
On le comprend. D'abandonner le Tour de France, Jérôme, Cyril, ça vous est arrivé? C'est des moments difficiles, surtout quand on est en pleine forme, comme c'est le cas de Guillaume Martin.
C'est ça, déjà quand vous abandonnez parce que vous êtes en méforme ou que vous êtes malade, c'est déjà très difficile. S'il y a bien une course au monde qu'on n'a pas envie d'abandonner, c'est le Tour de France. Donc quand vous êtes en pleine forme et que vous voyez tout ce qui se passe après, on va pas revenir là-dessus, mais tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, des tests négatifs puis positifs, etc., ça doit être difficile. Quand vous abandonnez le Tour malade, sur chute ou quoi, vous avez déjà pas du tout envie d'allumer la télé. En général, si vraiment vous êtes motivé, vous allez regarder le final d'étape, mais en général, quand on abandonne cette course, on n'allume plus la télé. Mais c'est très difficile parce que vous pouvez plus regarder la télé. Moi, ça m'est arrivé à mon premier tour, je suis tombé malade, j'ai abandonné à une semaine de l'arrivée, et en fait, peu importe la chaîne qu'on regarde, même en dehors des retransmissions, les informations n'importe, ça parle du Tour de France toute la journée. Quand on est à l'intérieur, on se rend pas trop compte, on est dans notre bulle, on a pas forcément le temps de regarder la télé le soir, etc. Mais quand on est en dehors du Tour, en fait, en mois de juillet, on parle que du Tour de France quasiment, et du Covid maintenant.
Un peu du Covid aussi de temps en temps. Et vous allez voir de quoi on va parler cette semaine. Vous allez voir, on va sans doute parler de la chaleur.
Ça t'inquiète, la chaleur, ça t'inquiète.
Non, mais regardez, vous avez lu les journaux ce matin, on commence à en parler, notamment de la chaleur qui va s'abattre sur le Tour de France. Peut-être pas aujourd'hui, ni demain et après-demain. demain, même si dans les vallées, ça va commencer à taper. Mais c'est surtout lorsque le Tour va arriver dans le sud-ouest, dans quelques jours, à la fin de la semaine et toute la semaine prochaine, où là, les conditions vont sans doute être terribles pour tous ces coureurs. On rappelle aussi qu'une étape de la route d'Occitanie avait été annulée, en tous les cas réduite
à 37 km.
Je ne sais pas s'il en sera de même, si les préfets prendront des décisions aussi importantes. La route d'Occitanie, c'est quand même pas le Tour de France, Pierre-Yves. Hein.
Oui, c'est ça. Il y a des enjeux plus importants. On pense à la télévision notamment. Travail d'équipe à l'avant du peloton actuellement, parce que Alexis Goujard est sorti. Il a une vingtaine de secondes d'avance. Et puis derrière, Moritz essaye de faire le train pour revenir, le tempo pour revenir. Et il a Jérémy Lecroc dans la roue, qui évidemment ne vient pas prendre de relais. Donc il s'est retourné, Maurits, en disant mais tu viens pas toi? Ah non, j'ai le même maillot que le garçon qui est devant, donc je ne vais pas t'aider. Alexis Goujard qui tente de donner l'initiative aujourd'hui. Pour l'instant, l'échappée n'est pas faite. À 110 km de l'arrivée, on le savait, ça va être nerveux et très rapide aujourd'hui.
Bon, et puis partir tout seul comme ça dans une étape de montagne, est-ce que c'est pas déjà être condamné à l'avance, Cyril? Il faut que tu trouves des compagnons quand même.
Je pense qu'il n'est pas parti pour avec l'intention de partir seul. Depuis le départ, bon, comme on dit dans notre jargon, ça ferraille. Les coups partent, 2, 3, 4 coureurs, des fois un groupe un peu plus important. Mais derrière, personne ne veut rater ce bon coup. Donc ça revient à signaler d'ailleurs que vous avez Thibaut Pinot qui saute sur tout ce qui bouge. Et on n'a peut-être pas envie d'emmener Thibaut Pinot non plus. Et Goujard est sorti, il se retrouve seul. Il est un peu dans une forme de piège. Il faudrait quand même que ça puisse ressortir derrière, qu'il puisse se retrouver avec un groupe de 7 ou 8. Et là, peut-être que ça pourrait s'en aller. Mais pour l'instant, rien n'est fait.
De toute façon, dans les 10-20 minutes qui viennent, ça va se dessiner, puisque derrière, il y aura la deuxième difficulté, le col de Jean Baz.
C'est ça.
Là, on a le droit de prononcer le
Z. On a le droit de le prononcer. Mais dans 4 km, ça commence déjà à monter. Quand ils vont sortir de Thonon-les-Bains, c'est là que la pente va commencer à se dresser gentiment jusqu'au sommet de ce col de Jean Baz. Maintenant, Alexis, ce qu'il doit faire, Alexis Goujard, c'est gérer le début de cette montée, justement, à la sortie de Thonon, pour que s'il y a un petit groupe qui revient le chercher, qui puisse accrocher les roues. Il ne faudrait pas qu'il se fasse croiser par un groupe de 7-8 costauds qui sort derrière. Il faut qu'il gère son effort, qu'il se mette juste en dessous du seuil en attendant du renfort et en espérant pouvoir accrocher les roues. Mais tout seul, bien sûr, c'est mission impossible.
Cyril le disait il y a quelques instants, Thibaut Pinot semble avoir des velléités d'attaque aujourd'hui. On rappelle qu'il a loupé la victoire l'autre jour pour quelques secondes, puisqu'il n'a pas réussi à revenir sur Jungels et ensuite il s'est fait rattraper par deux autres coureurs. Il a terminé quatrième. Mais en tout cas, on sent que les jambes sont de retour et la volonté est là, la volonté d'aller chercher cette victoire d'étape. Cyril, quelle peut être la tactique pour Pinot aujourd'hui? Tu le disais, personne n'a vraiment envie de l'emmener dans l'école parce qu'on sait que c'est un redoutable grimpeur. Comment faire pour essayer de se glisser dans le bon coup? Est-ce qu'il y a
c'est ce qu'il fait,
un mode d'emploi
de façon d'ailleurs relativement à droite. Il est là en position d'attente. S'il y a une cassure, il y va tout de suite. Il prend 2-3 relais s'il y a un petit groupe qui a pris 20-30 mètres d'avance, et puis après il se remet un petit peu au chaud. Ça, c'est beaucoup d'efforts, hein, pour prendre la bonne échappée. J'espère qu'à un moment ou à un autre, David Godu n'aura pas besoin d'un homme fort pour le protéger.
Aujourd'hui, tu penses qu'il peut avoir
toujours. Ouais. Tous les jours, chaque hectomètre, il peut vous arriver quelque chose où vous allez avoir besoin de la majorité de vos équipiers, et surtout des plus saignants.
Bon, après, il a quand même du beau monde encore autour de lui. On voit que ton petit protégé, Valentin Madouas, est bien depuis quelques jours lui aussi. Il va accompagner David Godu. Il peut aller loin dans l'école avec David Godu.
Oui, mais comme je dis, quand il y a un gros pépin, c'est pas sur les petits pépins, là, les choses se passent très bien. C'est quand il y a un gros pépin que s'il faut redresser la barre, c'est pas toujours évident.
Ouais. Tu n'as pas envie que Thibaut Pinot aille chercher sa victoire d'étape. Tu as envie de le réserver à son rôle d'équipier.
Si,
j'ai bien compris.
Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit que
je décrypte tes paroles.
À faire l'ensemble des efforts qu'il fait, il faut espérer qu'à aucun moment le leader aura besoin de tous ses équipiers. Maintenant, on sait très bien que Thibaut Pinot a carte blanche.
Mais oui, c'est pas un équipier comme les
les autres. C'est pas un équipier lambda, Pinot.
C'est quand même pas ce qui, est, ce qui avait été annoncé par Marc Madiot à
oui,
tour,
enfin,
hein. C'était le lieutenant qui allait rester avec David Godu. Donc est-ce que la démonstration qu'il a faite derrière Bob Jungels a changé l'état d'esprit de Marc Madiot et de l'équipe en se disant mince, il a quand même vraiment des bonnes jambes. Et comme tu l'as dit, Valentin Madouas marche très bien, Storer aussi, sur une étape comme aujourd'hui.
C'est
normalement, il n'y a pas de feu pour le classement général.
Demain et après-demain, voilà. Ça sera différent.
Donc peut-être que demain et après-demain, Thibaut Pinot devra rester avec David Godu. Mais là, Madouas, Storer, même Kuhn peuvent accompagner David Godu quasiment jusqu'à l'arrivée. C'est pas une étape vraiment chantier aujourd'hui.
Cyril, qu'est-ce qui est de le mieux pour une équipe engagée dans le Tour de France, une équipe française, c'est de faire un top 5, un top 10 ou d'aller glaner, remporter une victoire d'étape dans une étape justement de montagne. Qu'est-ce qui est le plus honorifique et qui a le plus de retombées pour un manager et pour une équipe?
Les deux, mon capitaine.
Ah oui.
Oui, j'ai envie de dire et de confirmer les deux. Ensuite, il faut toujours regarder comment la course, elle vit. Et ça, c'est très important. Puis il y a une autre règle qui est très importante aussi. Quand on a un leader, il faut s'organiser pour qu'il ait toujours le maximum d'équipiers autour de lui. Ça, c'est une règle qu'il ne faut absolument pas négliger. Et on sait très bien que dans une équipe, des fois, vous avez deux ou trois coureurs qui sont bien. Le lendemain, ce n'est pas obligatoirement les mêmes. Et que tous les efforts se payent et s'additionnent.
Mmh. Ok, bon, on va voir si Thibaut déjà a réussi à prendre la bonne échappée. Pour l'instant, le coureur français de la formation BNB Hotel n'arrive pas à creuser. Hein, 20 secondes d'écart entre Goujard et
Oui, mais je pense qu'il n'a pas envie de creuser non plus tant qu'il n'est pas relayé. Il y a Pasqualone qui se rapproche tranquillement, le coureur d'Intermarché Wanty Group Gobert qui est sorti derrière. Après sortir avec Pasqualone, c'est bien pour rouler. Il ne faut pas arriver au sprint avec lui, quoi. C'est ça le problème.
Ouais, alors pas sûr qu'ils arrivent au sprint ici à l'Altiport de Megève, mais il a raison, Alexis, de pas tout donner maintenant, parce qu'on l'a dit, il y a la deuxième difficulté du jour qui arrive. Tout à l'heure, Christophe, tu disais comment faire pour prendre la bonne échappée. C'est toujours un peu le problème, parce que vous allez sauter sur 3-4 coups, puis c'est le cinquième qui part. Là, on voit que tout le monde a envie de prendre l'échappée, donc mon conseil, ça serait de viser quand il y a des gros groupes qui partent à partir de 5 coureurs, essayer de se glisser dedans avec les équipes qui ont intérêt à glisser un homme dans l'échappée, notamment Bora par exemple, avec Kamna, avec Charman ou Conrad, qui sont des chasseurs d'étapes. Donc il faut pointer quelques grosses formations, et quand toutes ces formations ont mis un coureur à l'avant, sauter aussi dedans, parce que derrière, ça, au bout d'un moment, ça va faire rideau.
Mais ça veut dire de rester toujours à l'avant-garde du peloton. Hein.
C'est ça qui coûte beaucoup d'énergie, parce que vous devez vous battre pour rester à l'avant du peloton. Ouais, vous savez, les vagues, elles remontent par la droite.
À ce moment-là,
mais non, on n'est pas abrité, on prend du vent. Il y a des vagues qui remontent par la droite, par la gauche. Les coureurs qui arrivent de derrière, ils ont un peu plus de vitesse. Il faut toujours relancer pour rester dans les 15-20 premiers. Si vous êtes 25e, vous n'avez plus d'ouverture pour pouvoir sortir. Vous êtes pris déjà dans le début de la boule. Et vous ne pouvez pas vous extirper à droite ou à gauche de la route pour faire le jump sur les coureurs qui vont sortir. Donc il faut toujours être dans les 10-15 premiers pour avoir une porte de sortie et se glisser dans la bonne échappée.
Et savoir analyser tout ce qui se passe en temps réel, avoir l'intelligence et le sens tactique, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hein. Et ça s'apprend,
non.
Ça aussi. Hein.
Ça s'apprend. Il y a des coureurs qui sont. Alors souvent, le bon sens tactique, il vient avec la forme. Si vous n'avez pas les bonnes jambes, vous êtes toujours à contre-temps, vous ratez toujours les échappées et voilà, vous faites tout à l'envers. Et quand vous avez des bonnes jambes, en général, c'est là où vous arrivez à prendre souvent les bonnes échappées.
À l'image de Benoît Cosnefroy, qui tout à l'heure a essayé de sortir avec Alberto Bettiol et qui réessaye actuellement avec un garçon de l'équipe Education First qu'on a beaucoup vu en début de tour et qui s'appelle Magnus Kortensen.
Ah, veut-il aller récupérer ses petits pois rouges qui lui vont si bien au teint?
Une étape comme ça, elle est parfaite pour lui parce que il y a quelques points à aller chercher, mais les cols sont pas très raides. Donc ça, c'est vraiment des côtes qui lui conviennent parfaitement pour Kortensen. Nielsen, il pourra faire exprimer toute sa puissance sur ces cols qui sont pas très raides en 3 et 4%. Bon. Donc pourquoi pas les grappiller quelques points.
Il faut quasiment qu'il aille gagner l'étape.
Peut-être
pour prendre
pas le pour le récupérer aujourd'hui, mais ouais. Pour se rapprocher un petit peu, pourquoi pas. Et puis c'est toujours pareil. Même si l'objectif premier, c'est peut-être pas le maillot à poids, il peut servir d'appui plus tard à Paoles par exemple, si jamais la bagarre se déclenche derrière. Voilà, c'est toujours mieux d'avoir un homme à l'avant que pas.
Donc pour toi, le leader, c'est Paoles, c'est plus Rigoberto Urán.
Urán, il est à 7 minutes hein, maintenant. maintenant 7 ou 8 minutes. Paoles, c'est le seul qui est à moins de 3 minutes. Oui, je pense qu'ils vont se focaliser sur les victoires d'étape et sur le classement général avec Paoles.
On rappelle le classement du meilleur grimpeur avec donc le maillot à pois rouge, le meilleur grimpeur sur les épaules de Simon Geschke avec 19 points. Suit à un point derrière Bob Jungels, vainqueur l'autre jour de l'étape à Châtel. Thibaut Pinot est troisième avec 14 points. Magnus Kort Nielsen, quatrième à 11 points. Et puis un certain Tadej Pogacar avec déjà 10 points, cinquième au classement. On rappelle que l'année dernière, c'est lui qui avait ramené notamment ce maillot sur les Champs-Élysées.
Et juste peut-être avant que Arnaud s'exprime, messieurs, parce que je sens qu'il a envie de parler, juste, oui, juste Arnaud, pour confirmer les propos de Jérôme, on vient de voir Rigoberto Urán à la toute fin du peloton, donc il ne faut pas trop compter sur lui, effectivement Arnaud.
Oui, alors non, c'est pas là-dessus que j'avais envie de m'exprimer, juste pour qu'on on apporte une réponse à la question qu'on se posait et au débat qu'on avait tout à l'heure autour du cas positif de Rafał Majka. Donc il a bel et bien été testé positif au Covid, il est asymptomatique et donc les analyses du test PCR voilà, ont décelé un très faible taux d'infectiosité. Voilà, je sais pas comment ça se traduit, j'ai le communiqué de l'équipe UAE en anglais. Voilà, donc il est pas contagieux, clairement.
Okay. Mais il est positif. Mais il n'a jamais été contagieux, lui. Il a une chance, c'est incroyable. Pendant tous les tests de son équipe en première semaine.
Il est peut-être en début de Covid aussi.
La charge virale devrait être montante.
Elle serait montante. Donc ça veut dire qu'elle est descendante, qu'il est en fin de Covid. Donc ça veut dire que les tests qui ont été faits au sein de l'équipe, s'ils sont faits, bien, ils
n'ont pas été révélés au public.
Et ceux de l'UCI.
C'est ce que laissait entendre Guillaume Martin l'autre jour. On va voir en tout cas comment se comporte Majka aujourd'hui. S'il est à côté de son leader dans les ascensions, chose qui a toujours été faite oui, jusqu'à présent. Mais est-ce que UAE va vouloir laisser Majka tout proche de son leader, ce qui risquerait quand même de le contaminer, non? Je ne sais pas.
Pour pas qu'il se crache dessus.
Ça n'a pas posé de problème hier. Il est sorti lors de la journée de repos, Tadej Pogacar.
De nuit, non?
Non, il a fait sa petite sortie habituelle, comme toi, pour la journée de repos, tu vois, voilà, pour maintenir la forme. Ouais. Et lui, il l'a effectué avec George Bennett, avec Rafał Majka.
Et McNulty.
Ouais, donc
oui, et la fiancée de Pogacar.
Mais ça vient confirmer, a priori, s'il a fait cette sortie, que personne ne savait qu'il était positif hier. Là, ça va plutôt dans ce sens-là, non?
Oui, autrement, c'est vrai. C'est vrai.
Les dirigeants du AE auraient pas mis ensemble avec Pogacar quand même.
Ce serait bizarre.
Un énorme risque pris. Donc là, on pourrait croire qu'ils nous disent la vérité. De toute façon, on le saura jamais. Oui, Cyril.
Ceci dit, UAE a déjà sorti Langen.
Ouais. Langen et Bennett, ça fait déjà deux. Et c'est...
Donc c'est. Non, mais Langen, avant les tests UC, donc,
oui, donc tests, ils avaient des tests.
Ils ont des tests qui fonctionnent, ouais, puisqu'ils ont déjà sorti un coureur, ouais, sans l'obligation.
Sauf le meilleur équipier de Tadej Pogacar, la meilleure sécurité de Pogacar.
Vous êtes fait tester, vous, les gars, là?
Oui.
Parce que là, je vous parle, mais vous n'avez pas de masque. Hein.
Non, mais on est testé, on est négatif.
Vous êtes testé négatif.
Pas de soucis.
J'espère bien. Ouais. Autrement, ça va aborder.
L'avantage, messieurs, c'est que le prochain test éliminatoire, c'est lundi prochain. Et du coup, bon, a priori, s'il y en a qui sont positifs aujourd'hui, ils seront pas positifs lundi prochain. Voilà.
Très bien. Allez, 100 km de l'arrivée de cette 10e étape du Tour de France en direction de Megève. Toujours pas de bon de sortie et toujours pas d'échappée qui a vraiment pris la poudre d'escampette. Il y a deux coureurs qui tentent à nouveau de sortir, Pierre-Yves, là.
Oui, exactement. Un coéquipier, notamment de Goujard, qui est devant, c'est Schoenberger, accompagné de Jakob Fuglsang.
Il est 14h42, revient dans un instant sur la route du Tour. On va nous faire la petite carte postale. Arnaud nous a préparé ça, il va nous faire vivre cette carte postale dans quelques instants dans l'intégrale Tour de France. À tout de suite.
RMC Intégrale Tour.
Christophe Cessieux.
Il reste encore un petit peu moins de 100 km à parcourir dans cette étape courte, 10e étape de la grande boucle en direction de Megève. Et l'échappée n'a toujours pas réussi à se positionner, alors que Hugo Vstetter, le français de la formation Arkia Samsic, semble saigner du nez.
Ouais. Exactement, il fait signe à sa voiture. Ça arrive parfois, Jérôme, quand on a de la chaleur comme ça, la fatigue aussi.
Oui, la chaleur, la fatigue, vous savez, on se mouche beaucoup sur le vélo en pleine course. Donc des fois, un petit vaisseau qui pète dans le nez, on a un peu de sang qui coule. Bon, c'est pas très grave, mais c'est embêtant.
Ils leur ont peut-être enfoncé un peu trop les trucs dans le nez. Voilà.
Le monsieur à droite de la tente, apparemment, d'après Pierre-Yves Leroux, n'allait pas aller chez lui.
Celui à droite, paraît-il, il était très, 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 très violent.
Non, c'est celui à gauche.
Ah pardon.
Voilà. Soyons précis.
Bah oui, il faut être précis quand même.
C'est la course des BNB aujourd'hui.
Ah oui,
c'est
l'étape 3 à l'avant. Exactement. Oh là, Jérôme Pinot ne doit plus en pouvoir, là.
100 km encore à parcourir et trois coureurs de l'équipe BNB qui sont à l'avant. Schoenberger, Pierre Roland et celui qui avait déclenché tout ça, Alexis Goujard. Ils sont 6, 7, mais il y a un gros groupe qui revient derrière. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne encore.
Mais quand
ben on sait pas, parce que cette histoire-là. Y a, ça bouge quand même pas mal entre les Jumbo. On a vu Pogacar suivre alors c'était pas un coup, mais il a suivi un mouvement de course et ça a un peu fait paniquer la Jumbo. Tout de suite, ils ont bien sûr été le chercher, mais on voit l'équipe Jumbo Ineos qui se replace à l'avant. Bien sûr, quand vous avez des équipes comme ça qui bougent, et ben tout le reste du peloton essaye de les suivre, et voilà, on a un regroupement maintenant à l'avant de la course.
Et c'est pas bon ça pour les leaders et pour le maillot jaune qui aimerait passer une journée tranquille, mais de voir que ça ferraille devant et que personne ne veut lâcher le morceau, c'est des efforts un peu inutiles pour des leaders qui attendent évidemment la grande bagarre un peu plus tard. Cyril, ils aiment pas ça, les maillots jaunes et maillots verts, que ça ferraille autant.
Bah, tout dépend comment. Là, pour l'instant, j'ai plutôt le sentiment que si ce coup partait là devant, ça arrangerait bien et le maillot jaune et le maillot vert, puisqu'une fois que le coup va être parti, ça se relèvera et l'échappée va prendre 3 ou 4 ou 5 minutes et la course va être calmée au niveau du classement général.
Le problème, c'est que tout le monde veut y aller.
Ah ouais, ça, et là,
la moitié du peloton veut aller.
Il me semble qu'il y a deux ou trois de Jumbo dans le coup qui est parti devant. Alors, pas sûr que ça soit encore la bonne, parce que si vous mettez trois coureurs de Jumbo dans la bonne échappée, il va quand même y avoir un peu le feu dans la maison UAE, donc à mon avis ça va relancer tout ça. Mais on dirait pas, on a les images, mais c'est tout en file indienne, mais ça monte déjà. On n'est pas dans le col, mais ça monte déjà, c'est pour dire la vitesse. On a Marc Hirschi qui est lâché par exemple, c'est pour
encore
vous dire à quelle allure ça roule. Ouais.
Problème lui, de genou. Lui c'est pas le Covid, hein, c'est le genou depuis le début de ce Tour de France.
Et alors Thibaut Pinot est ressorti pour revenir sur le coup sur le groupe de tête.
Ouais. Bon, on ne sait pas trop où ça en est. Il y en a partout dans cette montée. Effectivement, le peloton est en file indienne et bien difficile de sortir. Alors qu'un Bonamour, super combatif du Tour l'an dernier, qui semble un peu plus dans le dur cette année, Franck Bonamour. 97 km de l'arrivée. On va faire la carte postale tout de suite, hein, puisque notre ami Arnaud Souk a écrit sa petite bafouille. Il va nous la dire tout de suite. Allez, c'est la carte postale de l'Intégral Tour.
RMC, la carte postale de l'Intégral Tour.
Monsieur Souk, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, quand je ne suis pas sur une moto, sur un vélo, Christophe, tu le sais, mon truc à moi, c'est de chausser des skis et d'arpenter les montagnes couvertes de neige. J'aurais donc été un petit peu bête de ne pas te parler de cette si belle discipline en ce jour d'arrivée du Tour à Megève. Oui, car c'est là, à Megève, sous l'œil majestueux, bienveillant du Mont Blanc, mastodonte des Alpes, qu'est enterré un géant des sports d'hiver, le pionnier du ski alpin moderne. Vous aurez peut-être reconnu Émile Allez, tout juste centenaire quand il est décédé en 2012. Il a skié presque jusqu'à la fin de ses jours. Émile Allez, médaillé de bronze en combiné des JO de Garmisch en 1936. Il fut également triple champion du monde l'année suivante à Chamonix. Et on retiendra surtout de lui sa méthode de ski révolutionnaire et qui, presque un siècle plus tard, est bien évidemment toujours la référence. Quand toi, Christophe ou Pierre-Yves, utilisez encore la méthode autrichienne, plus connue sous le nom de chasse-neige, eh bien les puristes comme Jérôme ou comme tout skieur qui a sa première étoile descendent avec les skis parallèles. Et ça, c'est grâce à Émile Allez qui a au passage ouvert la voie à un usage maîtrisé de la vitesse dans le ski. Une phrase d'Émile Allez résume toute sa vie: j'ai eu la chance de grandir en même temps que ce sport. Une jeunesse de compétition, donc sur des pistes sans signalétique, sans filet de sécurité. On passait même entre les arbustes, comme la neige n'était pas damée. On se faisait moins mal en tombant, mais on passait tout de même les 100 km/h. Voilà ce que racontait Émile Allez sur ses débuts du ski. Lui qui créera plus tard de nombreuses stations de ski, dont celle de Scovalley aux États-Unis ou encore celle de Megève, où vous êtes aujourd'hui à 100 ans, aller y skier encore régulièrement, expliquant avec humour qu'à son âge, il lui était plus facile de glisser que de marcher.
Émile Allez, dont le nom a été donné au collège d'ailleurs de Megève, qui s'appelle désormais le collège Émile Allez. C'est un grand bonhomme qui a skié jusqu'à ses derniers, son dernier souffle.
Je préfère Alphonse, moi. Alphonse Allais, qui disait: ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain.
Ah bon, qu'est-ce qu'on pourra faire après-demain? Après-demain, on sera dans les Alpes encore. Et demain aussi, hein, ça va être dur de remettre à après-demain. Il y aura déjà pas mal de choses à faire. Merci Arnaud, à tout à l'heure. 95 km de l'arrivée. Est-ce que la course se décante, Pierre-Yves?
Mais toujours pas, 96 km et tout le monde bagarre pour essayer d'être dans la bonne. Actuellement, en tête de peloton, Luis Leon Sanchez, Dylan Van Baarle, Philippe Gilbert, qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours, est présent. Il y a aussi Pierre Roland qui est dans ce petit groupe, qui a une dizaine de secondes d'avance. On va voir si ça passe ou pas. Valentin Madouas, Pierre-Luc Périchon sont à la bagarre aussi pour essayer de s'accrocher dans ce groupe de tête.
RMC Intégral Tour.
l'intégral Tour de France avec cette étape et qui n'arrive toujours pas à se décanter. Aujourd'hui, c'est une étape pour les baroudeurs. Et tous les baroudeurs ont des velléités de s'extraire du peloton. Et tous ensemble, ils essayent de partir à tour de rôle, mais n'y parviennent pas. Un petit groupe là de quatre coureurs vient de s'extraire. Il a une dizaine de secondes d'avance, Pierre-Yves.
Oui, du beau monde, c'est peut-être la bonne. Cette fois, je vous le disais, Pierre Roland, Luis Leon Sanchez, Dylan Van Baarle et Philippe Gilbert, des hommes d'expérience, sont partis à l'avant, Jérôme.
Oui, que des hommes d'expérience. Et là, voilà, c'est le moment où tout le monde avait besoin de souffler un petit peu. C'est là où Luis Leon Sanchez et Van Baarle ont attaqué les premiers, rejoints par Pierre Roland et Luis Leon Sanchez. Maintenant, on a vu l'équipe Jumbo se mettre à l'avant du peloton pour temporiser un petit peu. C'est possible que ça soit l'échappée du jour. Ces quatre hommes de tête, on verra. En tout cas, c'est toujours très très dur pour Aurélien Paré-Pinte. On voit qu'il se bat vraiment en queue de peloton. Il a mal digéré la journée de repos pour l'instant, Aurélien. Donc, on espère sur ses routes d'entraînement qu'il va réussir à limiter les dégâts.
On rappelle que lors d'une journée de repos, Cyril, il faut faire tourner les jambes. Sinon, le lendemain, on peut le payer très cher.
Oui, les journées de repos, c'est souvent là où il y a le plus d'abandon d'ailleurs, alors peut-être pas à la première mais souvent à la deuxième, donc l'étape de repos, faut la journée de repos en fait est une journée où on va essayer de se reconstruire au maximum, récupérer d'une part, mais rester quand même bien branché sur un minimum d'effort physique pour faire en sorte que l'organisme ne prenne pas qu'on n'ait pas de rétention d'eau. Ça c'est le gros problème, car si vous faites de la rétention d'eau le jour d'une étape de repos, d'une journée de repos, le lendemain, quand ça part très vite, vous êtes très, 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 ouais, très mal.
Et on rappelle aussi, je ne sais pas si on l'a dit, que le leader désigné en début de Tour de France de la formation AG2R Citroën a mis pied à terre définitivement Ben O'Connor, hein, qui n'a pas pu prendre le départ, qui souffrait depuis le début de ce tour après une chute dans la deuxième étape. Mmh. Il souffrait trop, il n'a pas réussi à se refaire la santé.
Mais il a quand même pu partir avec le sourire, puisqu'il y a eu cette belle victoire de Bob Jungels dans son équipe, et on les a tous vus autour de la table fêter ça. C'était avant-hier avec le luxembourgeois, bien évidemment, le gâteau, tout ce qu'il fallait, la petite coupe de champagne pour fêter cette belle victoire de Bob Jungels. Lui aussi, il a eu son gâteau, c'était il y a une semaine exactement, le 5 juillet. Philippe Gilbert, qui est parti à l'avant, qui a fêté ses 40 ans, un joli petit gâteau et une bougie. C'est bien comme ça d'avoir son anniversaire pendant le Tour de France.
Là, il y a quelques années d'expérience quand même dans l'échappée qui est en train de s'extraire. Désormais, 21 secondes d'avance pour les quatre hommes de tête. Ce sont des noms qu'on répète depuis des années sur les routes du Tour. Tu parlais de Philippe Gilbert.
40 ans.
Évoquons également Pierre Roland. Lui aussi, il a quelques années de vol, l'ami Pierrot.
Eh ben oui, et puis il a forcément aussi connu tellement de bonheur sur le Tour de France. Pierre Roland, qui lui est né en 86, qui est un petit peu plus jeune que Philippe Gilbert. Pierre Roland qui est à l'avant, qu'on a vu, lui ça lui fait donc 35 ans, on l'a vu depuis le début du Tour essayer des petites choses, c'était pas évident, mais là c'est un terrain qui lui convient bien sûr un peu plus. Deux victoires sur le Tour de France, une victoire sur le Tour d'Italie pour Pierre Roland, et à l'arrière, attention, ça réagit avec Simon Geschke, porteur du maillot à pois, qui lui espère bien défendre. Schoenberger de l'équipe de Pierre Roland vient défendre lui l'échappée pour que ça aille à son terme, pourquoi pas, avec ses hommes d'expérience. 92 km encore à parcourir.
Et Anthony Pérez, me semble-t-il, qui est en train de partir à son tour. 92 km 400 de l'arrivée, tu le disais. L'écart donc entre les quatre hommes de tête et l'avant-garde du peloton continue de se creuser. Anthony Pérez qui part en chasse-patate. Cyril, est-ce qu'il a une chance de rattraper le groupe de tête? Non, il n'y a même pas 20 secondes d'écart, il y a 13 secondes.
Oui, là, 13 secondes.
Il peut encore sortir.
Faut qu'il puisse faire le saut tout de suite. Si ça dure un peu trop longtemps, il ne réussira pas à rentrer. Mais on a pu voir quand même depuis le départ de cette étape qu'il était très actif, très vaillant. Et je pense que, puisque ça a pratiquement été le premier attaquant aujourd'hui, je pense qu'il a de très bonnes jambes.
Bon, est-ce que Thibaut Pinot est là, l'avant-garde du peloton? Il a trop donné en début d'étape, Thibaut Pinot. Vous le voyez? Non, on ne le voit pas trop.
Non, mais je pense qu'il a tenté un peu au sommet de la première difficulté en se disant, si je peux aller chercher un petit point pour le meilleur grimpeur, pourquoi pas. Finalement, il a vu Pierre Latour le déborder. Il n'a pas fait d'accélération, c'est pas forcément une étape où il faut se mettre à la planche complètement pour Thibaut Pinot, parce qu'il n'y a pas beaucoup de points à aller chercher. Et puis on l'a vu, Christophe, en reconnaissant la fin de cette étape, c'est comme l'autre jour, pas des pentes qui permettent à Thibaut Pinot de faire la différence s'il n'est pas seul.
Non, sur le papier, c'est pas une étape qui convient parfaitement à Thibaut Pinot. Maintenant, on l'a vu suivre les coups. C'est pas encore fait que ces quatre hommes de tête arrivent à prendre beaucoup de champ, parce que justement l'équipe de Pogacar ou l'équipe de Roglic et Vingegaard, pour l'instant, c'est eux qui relancent un petit peu les coups. Ils arrêtent pas ce peloton complètement. Et puis l'équipe à Pogacar, ça les arrange très bien. Tant qu'il y a de la bagarre, ils ont moins à contrôler derrière. L'équipe de Pogacar, pardon, je fais une grosse faute de français à chaque fois, je me fais reprendre avec des gros yeux. L'équipe de Pogacar, ça les arrange très bien pour l'instant que ça bagarre, parce que comme ça, ils n'ont pas à rouler derrière et à maîtriser la course.
Et ça continue de tenter de sortir du peloton. L'écart désormais entre les quatre hommes de tête et l'avant-garde est de 18 secondes. On a vu Tiche Benot, l'un des équipiers de Vingegaard et de Roglic, tenter de se glisser dans un petit groupe qui tente à son tour de sortir.
Oui, il y a les quatre hommes donc qui sont devant, on l'a dit, Luis Leon Sanchez, Ilan Van Barle, Philippe Gilbert et Pierre Roland. Un homme intercalé, c'est Anthony Perez. Et derrière, on essaye de sortir pour revenir à 15 secondes. Effectivement, Warren Barguil qu'on aperçoit également. Tom Pidcock est assez actif aujourd'hui de l'équipe Ineos. Lennard Kamna qui est à nouveau dans les premières positions. Ça se décante avec difficulté aujourd'hui. 91 km à parcourir. Le col de Jean Baz, le sommet est à 78 km de l'arrivée, donc dans 13 km maintenant.
Et tous ces efforts vont évidemment se payer tout au long de cette étape, d'autant que la chaleur est là, évidemment, présente aujourd'hui sur les routes du Tour de France. On va se quitter, laisser passer les infos de 15h et on revient pour la suite de l'intégral Tour en direction de Megève. Arrivé aux alentours de 17h10 a priori, mais ça peut s'accélérer encore une fois avec une tentative de Warren Barguil, c'est ça ? Warren Barguil qui tente de sortir. Allez, à tout à l'heure pour la suite de l'intégral Tour.
RMC, intégral Tour.